Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Direction l'Espagne dans l'émission que vous allez entendre dans un instant sur les traces de la grande figure tutélaire des lettres espagnoles, Miguel de Cervantes. C'est l'écrivain Michel del Castillo qui se prête au jeu de ce voyage historique au cœur de l'Espagne du siècle d'or. Avant de se consacrer à l'écriture, Cervantes y mena une vie très mouvementée. D'abord dans l'armée, il se battit notamment à la bataille de Lépante en 1571, où il perdit l'usage de sa main gauche. Suivirent de nombreux voyages et expéditions en Méditerranée. Il fut même captif pendant plusieurs années à Alger. Autant d'éléments de contexte et de biographie qui aident à comprendre la genèse de Don Quichotte de la Manche, son œuvre maîtresse. Voici donc le premier épisode d'une série de deux émissions consacrées à Miguel de Cervantes, de Valladolid à Cordoue, dans Un homme, une ville.
En 1616, ayant connu le succès, sinon la fortune, meurt Miguel de Cervantes avec peut-être, sur le visage, une expression de douce amertume. Lui qui, à la fameuse bataille de Lépante contre les Turcs, perdit la main gauche pour la gloire de la droite, dira-t-il plus tard, eut pourtant, plus qu'un autre, l'aventure chevillée au corps et au cœur. Dès la sortie du premier tome de Don Quichotte en 1605, l'héros de Cervantes passe dans la conversation courante. Signe des temps, 10 ans après, au moment où paraissait en Espagne le second tome, la France traduisait déjà les premiers exploits du chevalier de la triste figure. Pour mieux comprendre Cervantes, ses personnages et le mythe de Don Quichotte, nous sommes allés rechercher, en compagnie de l'écrivain et romancier Michel del Castillo, les traces de Cervantes à Valladolid, dans la Manche et ailleurs.
C'est quelqu'un qui aurait voulu désespérément que le monde soit autre et qui s'est trouvé un monde complètement fermé. Enfin, je veux dire, il suffit de regarder ce paysage de Castille et de regarder, par exemple, ce que Philippe II a fait dans l'Escurial pour comprendre que c'est un monde clos, qu'il n'y a pas d'issue, c'était un tombeau.
Michel del Castillo est l'auteur de Tanguy, récemment d'un beau livre, Le Sortilège espagnol chez Julliard. Témoin privilégié pour nous, puisque situé lui-même à la jointure de deux cultures, espagnole-française, à la lisière aussi de deux sensibilités. Avec lui, nous avons mis nos pas dans les pas de Cervantes, de Don Quichotte et de Sancho Panza, notamment sur cette terre de Castille, où pour Michel del Castillo, les contradictions de l'Espagne apparaissent souvent dans leur nudité.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero.
Ce premier volet d'Un homme, une ville consacré à Cervantes, la seconde partie sera bien sûr diffusée demain. La qualité technique a été assurée en Espagne par Marco Meunier, mixage de Robert Mazar, et la réalisation est due à Eliane Millot.
no me acuerdo de ti.
Michel Del Castillo, on est exactement devant la maison de Cervantes, ou une maison présumée, puisque c'est une de ses demeures où il aurait habité en 1605, c'est-à-dire à peu près au moment de la rédaction et de la publication, de la publication du premier tome sur les deux de Don Quichotte. Alors, est-ce qu'on peut déjà un petit peu donner l'ambiance ?
Oui, si vous voulez, en un sens, oui. En fait, ce n'est pas une maison présumée. Je crois que c'est à peu près sûr maintenant, parce que c'est la maison qu'il a habitée, puisqu'il a eu un procès ici et qu'il a été en prison à Valladolid. Il s'est commis donc un assassinat sur le seuil de cette maison. Et dans les actes du procès, on a retrouvé la description de la maison, à partir de quoi on a pu la reconstituer. Donc c'est une maison reconstituée, mais où effectivement il aurait habité. Mais ce que je trouve comme ça ironique, d'abord, vous la voyez comme ça, couverte de lierre et de vigne vierge.
C'est une grande façade, c'est une maison de deux étages, oui.
C'est ça, ce sont les maisons castillanes type. Hein. Elles étaient avant sur le bord de la rivière, il y avait un vieux pont romain, donc un couvent juste à côté. Maintenant, évidemment, elle est tout près du boulevard et de la circulation, puisque tout ça a été comblé. Et c'était ce qu'on appelle en espagnol les maisons des hidalgos. C'est la maison type, c'est-à-dire des maisons relativement simples, et puis intérieurement, quand on y est, vous verrez... malgré tout d'un certain luxe de bon ton, je veux dire, à la fois simple et dépouillé, puis en même temps... Ce qui est ironique tout de même, c'est que c'est au fond la maison qu'il aurait rêvé probablement d'habiter toute sa vie, qu'il n'a jamais habité. Il y a passé très peu de temps, un ou deux ans, où il venait de temps en temps, parce que la cour était à Valladolid à ce moment-là.
C'est ça, donc du temps de Philippe II à peu près.
C'est ça, oui, sous le règne de Philippe II, il vient ici parce qu'il espère obtenir une pension après toute la vie mouvementée qu'il a eue.
Michel Del Castillo, on est là sous des pins, on n'est pas loin d'ailleurs de la maison où habitait Cervantes à Valladolid. Des pins, cette région pour vous est importante par rapport à Cervantes ?
Oui, elle est importante d'abord parce qu'il est né en Castille, il est donc né à Alcalá de Henares, qui était à l'époque une ville très importante, la ville universitaire. Cisneros y créera une université qui deviendra célèbre en Espagne, mais une université de type particulier à l'Espagne de l'époque, c'est-à-dire une université où on va enseigner que la scolastique, puisque de toute façon tout l'enseignement qu'on appelle libéral de l'époque est interdit en Espagne, les frontières sont fermées. Et donc, si vous voulez, tout le paysage de la Castille est important par rapport à lui, dans la mesure où il a été obligé de choisir Castillan pour des raisons diverses. Si vous voulez, c'est peut-être pas mauvais de rappeler un tout petit peu qui il était exactement, parce qu'on a tendance un petit peu à faire des grands classiques comme Cervantes, des sortes de personnages statufié, académique, et qu'il était le contraire de ça, si vous voulez. Il naît dans un milieu modeste, pas pauvre, modeste, avec un père qui est chirurgien, entre guillemets, un chirurgien au XVIe siècle. C'est un barbier qui en même temps est arracheur de dents, qui soigne les phlegmons, qui fait des petites interventions, et donc qui passe son temps à bouger d'une ville à l'autre, dans les foires, dans les marchés. Il a donc une enfance absolument... presque de théâtreux. D'ailleurs, il écrit beaucoup de pages sur le théâtre de l'époque, la pauvreté des décors, sur les grandes places, les sans-coulisses, quelques planches, les fables qu'on y représente. C'est donc, dès le départ de sa vie, un enfant qui n'a pas de domicile fixe.
Un vagabond.
C'est un vagabond. C'est presque un enfant de la balle qui commence sa vie. Mais par contre, c'est un milieu lettré. Ça, c'est assez étonnant. Ses deux sœurs savent lire et écrire, ce qui à l'époque est absolument extraordinaire en Espagne. D'où d'ailleurs qu'on est soupçonné, on y reviendra, que probablement dans ses origines il y ait du sang juif, ce qui expliquerait le goût de la lecture et la curiosité intellectuelle. Mais, si vous voulez, il se situe donc à l'intérieur de deux plages très précises de l'histoire d'Espagne. Sa petite enfance jusqu'à l'âge de 9 ans, en gros, hein. Il naît en septembre, probablement le jour de la Saint-Michel, le 29 septembre 1547, donc. C'est encore le règne de Charles Quint, l'Empire. Et donc, si vous voulez, il est bercé de récits des victoires de l'empereur, qu'il appelle le foudre de guerre. C'est en même temps la conquête du Nouveau-Mexique, l'Amérique du Sud qui s'ouvre, l'Empire, etc. Et puis, il atteint l'âge de 10-11 ans, au moment où l'Espagne d'un seul coup se referme avec Philippe II sur elle-même, et où la Castille va devenir un État théocratique et clérical, enfermé, et qui va pourchasser impitoyablement les ethnies minoritaires, juifs et morisques, c'est-à-dire descendants des morts ou des juifs.
Voilà, alors là on arrive dans la première pièce du bas.
Oui, là vous avez vraiment avec le puits, les vraies entrées, puis les vrais escaliers.
Le puits dans la pièce.
Avec les chassolets. Et donc, vous voyez, les escaliers, un petit peu le genre de tomates qu'on en trouve un petit peu en Provence ou en Languedoc.
Avec des carreaux bleus.
Mais des carreaux bleus qui sont des chassolets, qui sont alors là un héritage des morisques et de l'influence arabe qu'on retrouve en Andalousie partout.
Avec des motifs très ouvragés, tous
oui,
différents les uns des autres.
Tous différents, des géométries, parce qu'ils faisaient très peu, les morisques faisaient très très peu de représentations. C'était sauf à l'Alhambra, mais c'était exceptionnel.
Aucune figuration,
aucune figuration. Mais jamais, non. Et c'est des motifs géométriques.
Voilà, ça c'est la première pièce. Voilà. Avec des poutres, bien sûr, et les carrés.
Alors vous voyez, des pièces relativement nues, un mobilier relativement ingrat, souvent dur. Hein,
austère.
Qu'on retrouve, ah oui, tout à fait austère, qu'on retrouve d'ailleurs dans tout le siècle, à l'Escurial et partout. Les chaises sont assez inconfortables, assez dures.
On mettait très droite, peu de meubles, avec des accoudoirs très, très rigides.
C'est des angles droits et très très peu travaillés.
Voilà, on vient d'ouvrir une porte.
Voilà, ça c'est très... Et alors là, vous voyez, ça c'est très très drôle parce que vous avez... Donc la pièce avec les vieux tapis de Sparterie, comme on était à l'époque, et une estrade et des coussins qui étaient les lieux des femmes où elles travaillaient. Et ça s'est fait jusque dans la cour. Elles étaient sur une estrade avec un tapis, des petits coussins, elles faisaient leurs travaux d'ouvrage dessus. Et on le retrouve dans les tableaux de tout le siècle d'or, jusqu'à Velázquez y compris, ce côté légèrement surélevé et un petit peu oriental qui est encore un héritage. Alors les peintures pieuses, les sculptures évidemment de la Sainte Vierge, etc., sont de rigueur. Et seul meuble souvent de luxe comme ça, c'est effectivement ces clusters florentins.
Et de la marqueterie.
Alors, la marqueterie, voire incrustée, etc. Qui effectivement, là, on retrouve dans beaucoup, beaucoup de maisons en Castille, des maisons d'Hidalgo. Et puis ces lourdes portes de chêne massif, alors avec travaillé le système d'étoiles, etc. Comme, ça, c'est vraiment.
Oui, le fait, Michel Del Castillo, qu'il y ait quand même un côté non pas théâtral, mais presque cérémonieux à toute l'ordonnance de cette maison. Il y a par exemple même des très jolies fenêtres, mais les carreaux sont plombés, d'ailleurs, doivent faire un bruit étonnant. On va voir. Enfin, un bruit de carreaux, d'ailleurs.
Un bruit de carreaux, oui.
De vitrail.
Mais à l'époque, c'était plombé partout, à peu près. Et. Oui, cérémonieux, c'est bien le mot, mais leur style devient entier. N'oubliez pas aussi que Philippe II a imposé le noir. Déjà, on est vêtu de noir, on a la Golie, donc le col haut est pris, si vous voulez, assez serré. Et c'est un style cérémonieux, même de vie, si vous voulez, l'honneur, enfin, on en reparlera, mais même le Quichotte, la langue aussi elle-même est cérémonieuse et ritualisée. On parle à la troisième personne. C'est le triomphe de l'Espagne aristocratique et théocratique à ce moment-là, qui est très très important. Et donc tout Hidalgo se doit s'identifier. D'ailleurs, il y aurait très peu de différence entre cette pièce et certains appartements du roi de Philippe II. Maintenant, il y avait un style de vie qui a été presque uniformisé par la cour et par le roi lui-même. C'est le roi moine, et ce sont donc des appartements effectivement à la fois un peu solennels, un peu rigides, mais à l'image du siècle, si vous voulez, d'une époque du soupçon. Et puis, il y a une série de ruptures dans sa vie qui sont très très nettes. Il se trouve très tôt en butte à des difficultés qu'on connaît mal. On a trouvé un procès à Madrid contre un dénommé Michel de Cervantes, qui probablement était lui sans qu'on ait une sécurité très grande. Dans tous les cas, il est mêlé à un assassinat et il est condamné à mort.
On peut dire à peu près son âge ?
Il a 20 ans. Il a tout juste 20 ans à ce moment-là. Et il disparaît, et on le retrouve en Italie, on le retrouve à Rome, où il est secrétaire d'un cardinal romain qui vient d'être lui-même expulsé d'Espagne par Philippe II, qui lui a donné 60 jours pour quitter l'Espagne. Il semble qu'ils aient eu des rapports d'amitié assez confiants avec ce cardinal. En tous les cas, il y avait une belle bibliothèque à Rome, et à Rome, il peut lire surtout toute la littérature interdite en Espagne. Il va lire donc l'Arioste, il va lire toute la littérature italienne, et les romans de chevalerie, et toute la littérature de l'époque, c'est-à-dire la littérature épique, pastorale et bucolique, et puis poétique. Il a probablement déjà une vocation d'écrivain, et puis de nouveau une sorte d'éclipse dans sa vie. Alors à Romans, c'est un certain Osho, il cite... Ça, l'Italie sera pour lui toute sa vie la nostalgie du bonheur. Ça a été l'amour, les femmes, une certaine liberté intellectuelle, la découverte d'un pays qu'il a beaucoup aimé, et surtout la distance de l'oppression. Il était enfin, il respirait.
Une image du paradis perdu.
Oui, et qu'il la gardera jusqu'à l'extrême fin de sa vie.
Il
voudra encore retourner en Italie, près de la soixantaine. Il espère encore qu'on va l'amener à Naples. Et de nouveau, il s'ouvre une parenthèse que dans sa vie, on le retrouve soldat, mais à l'époque, soldat, si vous voulez...
Soldat engagé, plus ou moins, volontaire.
Engagé, volontaire, mais probablement pour fuir, encore une fois, probablement des ennuis, si vous voulez, parce que d'abord, il aime le jeu, il le dit lui-même, il aime le vin, il semble qu'il ait régulièrement des ennuis avec la justice. Vous voyez, sans qu'on puisse tout à fait le comparer, il y a un côté Villon chez Cervantes, il y a un côté à la limite de la société légale, il est tout le temps mêlé à des coups un petit peu obscurs, où il est innocent sans l'être, où il est témoin vaguement de quelque chose d'un petit peu louche. Mais être soldat, en tous les cas, à l'époque, c'était quelque chose de très particulier pour un Espagnol, parce que pour porter les armes, il fallait être donc homme d'honneur, ce qu'on appelait en Espagne. Mais l'honneur espagnol, l'honneur castillan, c'était encore une fois lié au sang. Il fallait faire les preuves qu'on n'avait pas de sang juif, qu'on n'avait pas de sang mort. Alors il y avait tout un commerce qui s'était instauré, de fausses généalogies. Il a été un soldat très courageux.
Et ça, c'est très guerroyant aussi.
Très guerroyant et très courageux. Et sa fierté, ça va être donc surtout les pentes. Alors ça, il est...
1571, il est né en 47, donc il a à peu près 24 ans.
24
ans. C'est très jeune.
C'est très jeune, et c'est pour lui une des dates. Toute sa vie, il en parlera, d'avoir participé, comme il dit, à une des batailles les plus...
Contre les Turcs.
Contre les plus mémorables que les siècles aient vues. Il est malade, il est souffrant le jour de la bataille, et le capitaine qui commande sa compagnie lui conseille de ne pas participer, de rester couché. Et il demande au contraire d'être posté en première ligne en disant qu'il préfère mourir avec honneur plutôt que de rester couché, ce qui est encore une fois la rhétorique castillane de l'époque et dans laquelle il donne très très régulièrement. Là, il est blessé deux fois, une fois à la poitrine et une fois à la main gauche, il la perdra. D'où d'ailleurs son surnom en Espagne, on l'appelle toujours le manchot de l'épante. Donc, si vous voulez, il garde toute sa vie ce côté un petit peu fier à bras et un petit peu, pas militaire dans l'âme, mais en tous les cas, de vie de cap et d'épée, il le garde très très longtemps.
Là, c'est une autre pièce, c'est une... toujours sur le même plan, tout ça donne sur ce qui était autrefois la rivière.
Voilà, les trois pièces sont en enfilade, séparées donc par ces lourdes portes de chêne, toujours... des motifs géométriques, à caisson, et toujours en angle droit, tout est d'ailleurs en angle droit, les gros volets pareillement en angle droit, et là vous tombez donc à la fois, voilà. Alors ça c'est un salon, ça l'a couché, et vous trouveriez presque la même disposition dans l'appartement du roi Philippe II, c'est-à-dire un bureau, un grand fauteuil, et une alcôve avec le lit, un crucifix, et une petite table. Et à l'Escurial, par exemple, il y aurait la seule différence, c'est qu'il y aurait la petite fenêtre par laquelle le roi pouvait directement plonger sur le maître-autel de l'Escurial pour suivre la messe depuis son lit. Donc la seule différence était au fond des différences de disposition de lieu, mais et le mobilier, et puis ces murs peints à la chaux, blancs, si vous voulez, avec quelques tableaux d'images pieuses de saintes, une ou deux cartes. C'est vraiment l'esprit du siècle même. Si vous voulez, en ce sens-là, cette maison est significative. Comment reconstituyeron la casa para los muebles y esto para reconstituir la habitación, por ejemplo, sobre los documentos?
Sobre los documentos de la familia Cervantes, de su mujer y de su hija, Isabel de Cervantes.
Sí. Y entonces trataron de buscar y de encontrar los muebles que había en el inventario, más o menos, y ponerlo.
Pues más o menos exactos, hay una reciprocidad absoluta. Es decir, es el mobiliario de una familia venida a menos, pero que conserva vestigios de su grandeza pasada. y así se encuentran bargueños espléndidos, tapices, al lado de mesas pobres, de sillones también funcionales.
C'est une reconstitution donc à partir de, d'inventaire.
De l'inventaire donc à la fois de la femme et des sœurs de Cervantes, et que on a donc reconstitué l'inventaire, comme il le dit très justement Monsieur Charles de la Peigne, à la fois avec des meubles de famille ruinés, et il reste donc quelques belles pièces, et puis en même temps des meubles très pauvres, et que ce mélange de pauvreté et de quelques belles pièces, c'est le prototype de ce genre de famille de l'époque. El Brachero, ça c'est une pièce typique alors de des maisons du temps, parce que on s'assied, on mettait les pieds au bord. Alors ça, je l'ai moi-même fait dans ma jeunesse, dans les maisons non chauffées en Castille, quand il fait très très froid. Bah, si vous voulez, moi je me souviens dans des petites villes d'Espagne, par exemple, en hiver, quand c'était très très dur, nous avions une table avec un tapis qui recouvrait le bassin. Nous mettions les pieds dessous, appuyés sur le bassin, et comme ça, la nappe garde la chaleur. On met des draps ardents, on les recouvre de sang, et en hiver, donc ça fait un petit foyer pour les pieds. Et rupture dans sa vie, alors celle-là beaucoup plus importante, il doit retourner en Espagne avec des documents où il espère avoir un poste enfin d'officier, car plusieurs citations plus ses blessures lui font espérer qu'on va le nommer capitaine, et la frégate sur laquelle il se trouve est accostée par...
frégate qui avait un beau nom qui s'appelait Sol.
Oui,
Soleil.
Le long des côtes françaises, il est fait prisonnier et il est amené en captivité à Alger. Et là, on trouve dans une petite cassette de métal les lettres de recommandation qu'il a. On croit que c'est quelqu'un de très important. On se dit, on va pouvoir le menailler et le faire acheter si bien qu'il a droit à un cachot. Et on l'isole des autres, ce qui lui sauvera probablement d'ailleurs la vie. Et il va passer 5 ans en captivité. Il fait 4 tentatives d'évasion, plus courageuses les unes que les autres. Et il est deux fois condamné à mort. Et il y réchappe mystérieusement et à la fois d'une façon très étonnante parce que, au fond, il inspire une sorte d'estime par son courage. Les Turcs finissent par trouver que ce type qui passe son temps à organiser des évasions extraordinaires et rocambolesques et qui a un tel sens de l'organisation mérite qu'on ait des égards pour lui, et ils ont des égards pour lui. Ce qui va beaucoup le troubler, parce que pensez à ce jeune soldat espagnol qui a passé sa vie à lutter contre l'islam et qui d'un seul coup va vivre pendant 5 ans en terre d'islam et découvrir que les Turcs, en l'occurrence, ou les Arabes, entre guillemets, se montrent fort tolérants, qu'il y a probablement plus connu des amours, et qu'il gardera du coup une grande ambiguïté envers les morisques par la suite. Dans son œuvre, on retrouvera souvent des amours entre des morisques et des chrétiens, des chrétiennes et des morts.
Une parenthèse, Don Quichotte, normalement, est censé être un roman écrit par quelqu'un d'autre, évidemment, et par quelqu'un qui s'appelle Cid Hamet.
C'est ça.
Qui est aussi... pas un nom forcément castillan.
Qui est un morisque et qui, comme par hasard, vit dans la rue Alcalana de Tolède, qui était la rue des Rosiers. C'était la rue juive par excellence. Si bien que dans le Quichotte, il fait 2 fois référence, au fond, aux 2 communautés opprimées de l'époque, comme s'il voulait dire le roman est la résultante de ces 3 civilisations-là. C'est un historien arabe qui me traduit le texte. Je le trouve dans la rue la plus juive d'Espagne. Et probablement écrit par un érudit. Donc, si vous voulez, le livre est tout fait de clin d'œil pour le lecteur espagnol à ce niveau-là. Donc, il s'agit de le racheter à Alger, sa famille, donc, imaginez ses parents et ses sœurs. Alors, ses sœurs, entre-temps, ont un petit peu viré, elles sont devenues des femmes un petit peu légères, ce qui leur permet d'arrondir les fins de mois. Son père continue de pratiquer son métier de barbier chirurgien dans les foires de villas et circuler d'un endroit à l'autre. Et il s'agit de réunir, à l'époque, une somme considérable. Ils essayent, ils font le maximum. Et ils en trouvent à peu près la moitié. Et il est racheté donc par moitié avec l'argent de ses parents, et par moitié par un frère trinitaire et un frère de la Merced, qui étaient des ordres qui se dévouaient au rachat, c'est-à-dire qu'ils allaient sur place et ils se constituaient prisonniers à la place de quelqu'un d'autre. Et on arrive à le sauver in extremis, il est déjà embarqué pour Istanbul le jour où on le descend de la frégate, et il va enfin pouvoir entrer en Espagne. Il en est absent depuis 11 ans, c'est un blessé de guerre, un mutilé qui rentre en Espagne et qui a connu en Italie l'amour, la liberté, la culture, et qui va retrouver l'Espagne de Philippe II, la Castille, l'Inquisition, les autodafés, les persécutions, et qui de nouveau va devoir rentrer dans la peau d'un Hidalgo. Et là, il a une espèce de panique. Il essaye tous les moyens pour s'en échapper. Il demande d'avoir un poste en Amérique, aux colonies. Alors bon, il fait vraiment des pieds et des mains, il écrit des lettres, il cite ses blessures, il arrondit même les angles en disant qu'il combat depuis 10 ans, ce qui est probablement faux, il en ajoute 3, mais ça il le fera souvent dans sa biographie, ce qui rend d'ailleurs sa biographie si compliquée. Il n'obtient pas ce poste, il obtient un poste très minin de contrôleur des taxes manutentionnaires, ce qui ne veut rien dire, c'était aller dans les villages en Andalousie pour vérifier que les gens avaient bien payé leurs taxes, qui étaient surtout des impôts en nature, du blé, etc. Malencontreusement, il met la main sur du blé appartenant à l'Église. Il est excommunié, il est mis en prison.
Une petite fille, une grande clé.
Petite fille, une grande clé, une porte cloutée, une maison très basse avec deux fenêtres, avec des grilles en fer forgé.
Et c'est le village ?
C'est le village, donc Argamasilla de Alba, un des villages où Don Quichotte, enfin où Cervantes s'est passé à un moment donné, et où il a fait un de ses nombreux séjours en prison, quand il était toujours collecteur donc des taxes pour le roi d'Espagne.
Il faut dire que...
Ya está.
Puedes bajar para abajo.
Muy bien. ¿Por dónde se baja?
¿Por
aquí a la derecha o a la izquierda?
Ah.
Et voilà donc un escalier raide en pierre avec des petites marches qui descendent dans un cachot qui est dans un souterrain évidemment et avec une petite plaque et une inscription dessus et la porte donc du cachot. On va essayer de la lire. En este tenebroso encierro, en este angustioso cofre de cal y canto, concibió la fecunda mente Cervantes la idea vastísima, triste alguna vez, regocijada siempre de su Don Quijote. En ce lieu ténébreux d'enfermement, dans cet angoissant coffre de chaux et de mortier, fut conçu par la très féconde imagination de Cervantes la très vaste idée, quelquefois triste, toujours joyeuse de son Don Quichotte. Vous voyez que le texte est lui-même assez solennel.
Un style cervantesque.
C'est un style cervantesque de rhétorique espagnole. Un gros verrou de fer. Toujours ses portes cloutées. Et là, on descend de plus en plus profond. Et voilà donc.
Voilà le cachot.
Et voilà le cachot.
C'est une immense pièce oblongue, basse, donc puisqu'on est en dessous du. Voûté, sous le niveau de.
On est sous le niveau assez froid. Un lit avec tout. Qui est une simple natte, une petite table, et quelques objets, alors là, qui rappellent Quichotte, mais qui n'étaient certainement pas là à l'époque.
Oui, par contre,
le quinquet à huile, par contre, à Chopinfault, était l'éclairage habituel avec une bougie, effectivement.
Et puis, il est relâché. Puis, une deuxième fois, il y a une somme d'argent qui disparaît, et il est remis en prison de nouveau à Séville. Mais curieusement aussi, ces années d'Andalousie auront été des années encore heureuses parce qu'il vit dans un milieu un peu marginal, avec les gitans, avec des femmes de villégères, jouant beaucoup, comme il dit lui-même, buvant beaucoup. En fait, il vit un petit peu dans les rues animées de la ville et un petit peu une vie encore d'aventurier.
Et général. Et on peut continuer de descendre dans la prison. Il y a d'autres cachots donc en bas. Car probablement ici, le premier cachot, le premier souterrain, généralement, c'était surtout des corps de garde. Il y avait généralement deux gardes qui étaient là. Et les vrais cachots étaient généralement un peu plus bas encore.
Bien, on descend dans le grand noir.
On continue de descendre dans ces marches taillées dans la pierre. Et on descend de plus en plus profond. Alors là, c'est au deuxième niveau, sous la terre.
Oh, il fait de plus en plus frais.
Il fait de plus en plus frais, effectivement.
C'est même d'ailleurs le seul endroit agréable, sans doute, en été.
Oui, oui. Mais je pense que, malgré tout, ce genre de cachot ne devait pas être très, très confortable à ce temps-là, surtout en hiver.
Il y a une colonne. C'est...
Il y a une colonne qui soutient la voûte de pierre.
Et puis alors, c'est très étonnant et surréaliste, une rangée de bustes.
Une rangée de bustes, oui, c'est très étonnant parce que qui doivent être donc les différents bienfaiteurs de la mairie qui ont contribué à l'achat, puisque c'est classé maintenant monument national, cette prison. Mais vous voyez, alors là, si vous retirez les bustes,
Ce
alvéole était généralement, effectivement, alors il y avait des nattes par terre qui étaient les prisonniers vivaient là-dedans, comme ça. Et alors on les sortait ce qu'on appelait souvent au premier lieu, c'est-à-dire au premier cachot qu'on a vu pour respirer, et de temps en temps dans la cour, une fois par semaine généralement.
Le petit guide va nous expliquer, c'est une petite fille qui a 7-8 ans, si elle sait quand même quelque chose de Cervantes ou de Don Quichotte.
¿Cuántos años tienes tú?
Siete.
¿Y cómo te llamas?
Pilar.
¿Y tú sabes algo de Cervantes o no?
Sí, sé que esto eran las claraboyas, que allí más dentro había otra cueva. Yo ya por allí, que era debajo de donde dormía, tenía los pañuelos y se los comían los ratones.
Elle sait qu'il était dans un cachot encore plus profond là-bas, derrière là, qui maintenant n'atteint plus. Et elle sait que sous la natte sur laquelle il couchait, il cachait ses mouchoirs et que les rats le lui mangeaient car il y avait des rats partout, qu'il a eu très froid ici. Et qu'il était prisonnier ici, évidemment. Elle sait tout ça.
Elle a lu un petit peu de Cervantes.
¿Has leído el Quijote algo? No, no, nunca.
Algunas cosas.
Oui, quelque chose. ¿Y te recuerdas de algo, de algún episodio, no, de alguna aventura que le sucedió a Don Quijote?
No, porque eso ya que sucede mucho tiempo ya que lo empezaba a leer.
Alors, ça fait très longtemps qu'elle a commencé à lire, alors maintenant elle l'a oublié, parce que c'est une lectrice déjà ancienne de Cervantes.
C'est ça, c'est une culture
oui, déjà,
de l'ancien temps.
De l'ancien temps. Ce qui est malgré tout assez émouvant, enfin moi, dans ce genre de choses, c'est... Donc quand on lisait cette plaque à l'entrée, donc au premier niveau, comme ça, d'une rhétorique assez solennelle, c'est cette idée que le Don Quichotte aurait été conçu en prison. Il s'est marié, entre-temps, avec une femme native d'Estruvia, qui est un petit village de la Manche. C'est quelque chose d'assez important, car il y a là une famille qui s'appelle Quesada. Or, dans le Quichotte, il hésite beaucoup si Don Quichotte s'appelle Quijada, Quesada ou Quixana. Il dit qu'il ne sait pas. Or, cette famille est manifestement juive. Elle est connue comme telle dans le village. Et elle est apparentée à la famille de sa femme. Donc, on retrouve de nouveau l'ascendance judaïque cachée à l'intérieur de cet arbre généalogique, et avec un clin d'œil, il commence le Quichotte en disant que dans un village dont le nom est oublié, alors qu'il sait très bien de quel village il parle d'Estruvia, c'est le village de sa femme probablement. Il laisse aussi sa femme, il a une fille naturelle avec une autre femme, et il laisse sa femme à qui il rend des visites épisodiques, de temps en temps il va la voir, il passe un an, quelques mois avec elle, et puis il retourne avec sa maîtresse et avec sa fille. Donc si vous voulez, toute cette vie est tout le temps en balance entre un écrivain qu'il voudrait être, ou un pensionné, ou avoir une charge, avoir des revenus fixes, et puis l'impossibilité de les avoir, et l'accumulation de ces malheurs successifs qu'il a dans sa vie, et qui à chaque fois l'empêche au fond de se fixer. Et quand il pourrait, comme avec sa femme, il ne le fait pas. ¿Estaba así la casa antes usted, cree, cuando...?
Esto sí, luego ya me casi está todo...
Sí, pero esto sí estaba así,
sí.
Como se me...
La jalera, este
creo,
piso...
Era la casa de su mujer, en realidad.
La casa, sí, doña Catalina era.
Doña Catalina,
là, Michel del Castillo, on est dans un petit village, donc pas loin de Madrid, à 50 km au sud, et dans une maison.
Oui, qui était la maison de, de la femme de Cervantes, donc qu'il a épousée à 37 ans, après son retour. Et ça s'appelle Esquivias, le village. Mmh. Et nous sommes donc dans cette maison, mais qui maintenant est habitée par des particuliers, qui est tout à fait normalement habitée, qui n'est ni musée, ni même classée. Et donc, par contre, elle dit que cette partie-là, la dame qui habite ici, nous raconte que cette partie-là n'a pas été tellement touchée, l'escalier, ça, que le reste, évidemment, a été modernisé, puisque
Alors on voit ça, plus les caves, plus la cour qui allait rester intacte.
Et il y a, dit cette dame, des étrangers qui viennent de temps en temps.
Si, extranjeros vienen, ¿verdad?
Muchos, muchos vienen, muchos. Y japoneses también.
Sí, des japonais, des russes.
Alors, il y a japonés, mejor, está de Japón, vino también, estuvo aquí. Viene mucha gente.
L'ambassadeur du Japon est venu, l'ambassadeur des États-Unis.
Está declarada monumento nacional, firmado por el rey, por Franco también. Franco y luego por el rey.
Está declarado monumento nacional y no les han dado dinero para...
Nada, ni siquiera para sostener el house, la cuadra...
C'est classé monument national, mais il n'a même pas, on lui a même pas donné de quoi refaire la toiture, ni rien du tout.
Il faut dire que c'est dans un tout petit village.
Ah oui, c'est dans un tout petit village.
Ya no podemos hacer obra, pero que tampoco...
Claro.
Ni nada, ni siquiera dan un dinero para sostener las cuadras, las cámaras, se está cayendo todo.
Ça a l'air assez vaste, il y a un grand escalier assez large pour une fois,
en pierre. Très escalier, oui, en pierre, avec une bon, c'est une maison, sans trop s'aventurer, ce qu'on peut dire, ça semble à peu près certain, c'est qu'une des raisons qui ont incité Cervantes à épouser donc, cette dame, Catalina, était en grande partie due au fait qu'elle avait un peu de bien au soleil, quelques terres et cette maison. Et il est resté en cette maison 3 ans, hein. Il l'épouse à 37 ans, à 40 il repart à Séville avec sa maîtresse dont il aura une fille, et il va rester 10 ans sans revenir. Donc ça a été un mariage... rapide, et il a eu une attitude assez étrange avec sa femme, qui le récupère par contre complètement au moment de mourir. Pendant toute la vieillesse, les dernières années de Cervantes appartiennent à la femme de Cervantes, comme la deuxième partie du Quichotte d'ailleurs, qui sera publiée en grande partie grâce à elle.
Oui.
Qui sont restés alors en état parce que vraiment, comme vous voyez, les choses ont été très peu touchées par manque d'argent, y compris les jarres, la cour intérieure. Alors, il dit
une rangée de jarres immenses.
Voilà, une rangée de jarres immenses. C'est ici qu'on faisait les vins pour la table royale, pour le roi, des vins de la région. Et donc, comme elle était une propriétaire terrienne et qui avait quelques hectares de vignes pas mal situées, donc elle avait une cave importante avec ses immenses jarres, donc qui font 2,50 m de hauteur tout le long, et qui est assez impressionnante. Elle, ça n'a pas été touché du tout. Alors, ça s'est resté, ça n'a même pas été restauré pour l'instant. Probablement que son rêve aurait été, mais le rêve entre guillemets, comme il aurait rêvé d'un palais, d'un petit palais où il aurait été un hidalgo tranquille, avec une bibliothèque où il aurait écrit ses romans. D'ailleurs, c'est toute la préface du Quichotte. Et puis, d'un autre côté, sa vie d'aventure et de malheur, qui lui semble à la fois sa pente naturelle et puis quelque chose qui l'empêche d'être heureux, mais probablement qui n'était pas fait pour le bonheur. Tout ce double mouvement dans le Quichotte va éclater d'une façon étonnante en deux personnages. Il y aura la rhétorique épique d'un côté, la folie, et ce sera Quichotte, et puis le réalisme, celui qui espère une île. Mais l'île, Cervantes l'a espéré toute sa vie, mais ce n'était pas une île, c'était un foyer, un revenu régulier, un peu de tranquillité, pouvoir vivre, manger, dormir. Il n'aura jamais pu... vivre tranquille jusqu'à sa mort.
Il y a un mot très étonnant à propos de mort. Il dit à ses invités qui sont autour de son lit de mort, il leur dit à propos de Sancho Panza, si je lui ai toujours promis le royaume d'une île, mais si j'avais pu lui promettre le royaume d'une terre plus grande, je ne sais plus quelle est la phrase exacte, il l'aurait eu, je le lui aurais donné.
Oui, c'est
au moment où il devient raisonnable.
Mais c'est ça, mais c'est vraiment la grande ambiguïté de l'époque. C'est que, vous voulez, qui a gagné en fin de compte, au niveau du peuple espagnol, qui a gagné? L'aristocratie terrienne qui a parfois des étendues de terre avec villages, cimetières compris de 200, 150 000 hectares, comme le duc de Medinaceli dans ce ténon, où les hommes lui appartiennent corps et âme. Une misère généralisée par l'industrie.
Le Portugal qui, à la fin d'ailleurs du règne de Philippe II, est, comment dire, annexé
à l'Espagne. Est annexé et ressera perdu, comme les Flandres seront annexées et reperdues. C'est vraiment le début du démembrement, tout s'en va. Et donc, effectivement, dire « j'aurais donné un peu plus de terre si j'avais pu », ça veut dire simplement « nous avons rêvé d'îles, nous avons rêvé de royaumes imaginaires, etc. » Si seulement nous avions pu vivre un peu mieux à l'intérieur de nos frontières, ce que nous n'avons jamais pu faire. Et donc cet homme aurait été tout le temps pris au piège d'un pays qu'il à la fois
profondément aimé et détesté. Je crois que vraiment l'Espagne et la Castille étaient pour lui à la fois une prison et une prison en un sens adoré. Il ne pouvait pas s'en détacher. En même temps, il n'arrivait qu'une chose, c'était repartir, s'en aller.
No, ya, pero dicen que tienen la lápida ayer.
Bueno, pues sube usted a la puerta de arriba, una donde está la portería.
Sí.
Y ahí le dirán si pueden.
Bueno, señor. Muchas gracias.
De nada.
Pero debe escribir. Sí. ¿Cómo ustedes por esa puerta? ¿Está por arriba? La puerta. De acuerdo. Muchas gracias.
En chercher évidemment dans le vieux Madrid, donc près du couvent où est enterré,
oui,
Cervantes. On est sûr de ça?
Non, pas du tout. Là, par exemple, je demandais à un éditeur donc, qui était installé dans les bâtiments du couvent, ce qui était avant des réserves, et qui me dit qu'ils sont encore probablement à la fosse commune, mais qu'elles ont la tombe officielle. D'ailleurs, elles ne disent pas qu'il est là, elles disent simplement qu'elles ont la pierre tombale. Mais son corps était probablement jeté à la fosse commune, il n'avait pas d'argent et il y a de fortes chances pour que le corps ne soit pas là-dessous.
On est dans quel quartier là?
Alors ça, c'est le vieux Madrid du XVIe siècle. C'était d'ailleurs la rue où se trouve la maison natale de Lope de Vega et qui était aussi le quartier des écrivains, des bohèmes de l'époque. C'est un petit peu la rive gauche madrilène, mais Madrid était un tout petit bourg. Hein. C'était la capitale, elle est devenue la capitale sous Philippe II, ça devait faire à ce moment-là 10 000 habitants. Il y avait donc, on jetait les ordures à la rue, des porcs, des chèvres, des troupeaux qui rentraient le soir.
C'est des petites rues, d'ailleurs c'était presque sans doute des ruelles, et puis il y a toutes les maisons qui sont encore chacune, dont les façades sont chacune d'une couleur.
Oui, et puis alors avec les rose, fameux jaune. Balcons en fer forgé carré à la castillane, avec des boules souvent aux angles des balcons, puis les fameux miradors, ces espèces de balcons.
Alors, vous pouvez mettre algo para comer algo? Que son la noche en la calle, y tengo, no sé, frío, hambre, y tengo de todo.
Tendez-moi, je te demande si vous voulez. Tome.
Gracias.
On va essayer de trouver d'ailleurs une ouverture dans ce mur aveugle. Un grand mur de briques brunes, très brunes. C'est une des raisons pour lesquelles vous l'aimez aussi personnellement, vous, Michel del Castillo, avec l'expérience que vous avez, votre histoire.
Oui, mais probablement en plus parce qu'il y a une concordance différente, c'est-à-dire que, si vous voulez, moi je suis déchiré dans un autre sens, j'aime autant probablement le pays que lui, et puis aussi la même impossibilité d'y vivre à cause de la prison morale que ça représente, si vous voulez, du poids, l'impossibilité de respirer librement, réellement, de pouvoir... je ne sais pas comment vous dire, mais... se répandre un peu. C'est un pays dur, étendu, avec une histoire tellement tragique qu'on a beaucoup de difficultés. Et donc cette sorte de dualité schizophrénique que Cervantes a vécu, tous les intellectuels espagnols l'ont vécu. Miguel de Unamuno a été en exil, Lorca a fini assassiné à Grenade, l'arcipreste Saint-Jean de la Croix était en prison, Thérèse d'Avila elle-même, pourtant une sainte mystique, a eu des ennuis avec l'Inquisition. Je veux dire, l'intellectuel espagnol était promis ou à la prison ou au coup de pistolet dans la nuque, mais il y a eu une espèce d'impossibilité de penser et d'écrire librement dans ce pays depuis des siècles, comme une sorte de maladie. Il y a une Espagne noire, anticulturelle, cléricale, théocratique, qui a réellement haï la culture comme synonyme de révolution bourgeoise. Si vous voulez, ce qu'elle a détesté, surtout à partir du XVIIIe siècle, c'est la révolution bourgeoise. Or Cervantes, bien avant le XVIe siècle, est un homme de l'humanisme naissant, c'est-à-dire un homme qui a vu en Italie naître l'humanisme et qui a donc pris le goût de la liberté, un amour passionné de la liberté, et qui revient dans un pays où la liberté n'existe pas, et est obligé par le roman de dire son amour de la liberté et le dérisoire de la situation espagnole.
Lutte contre les obscurantismes.
Absolument, et lutte par l'ironie et le rire.
En gros, lorsqu'il est en Andalousie, donc en train de collecter des taxes, Cervantes ça a à peu près 40 ans, on est en 1585 à peu près, donc ça fait 20 ans avant la publication du premier tome de Don Quichotte.
C'est ça, oui, et on suppose, d'ailleurs, on suppose, on en a à peu près maintenant une certitude, que c'est en prison et que c'est probablement à Séville qu'il commence la rédaction du Quichotte et que ce sera un des manuscrits qu'il remportera avec lui quand il remontera à Madrid ensuite. Mais toute la fin de cette vie, si vous voulez, de cette vie donc d'aventure, de rupture, d'amour facile, de prison, d'exil, de captivité, est une fin de plus en plus mélancolique. Si vous voulez, il perd toutes ses illusions, il s'aperçoit qu'il n'ira pas, il n'aura jamais un poste en Amérique, qu'il ne pourra donc pas partir aux colonies. Il a beaucoup espéré que le comte de Lemos, qui est un de ses protecteurs, à qui d'ailleurs il dédie sa dernière œuvre, Percy Segismonda, quelques jours avant sa mort, va l'emmener avec lui à Naples, ce qui prouve que jusqu'au bout, il reste tendu vers l'Italie et la terre du bonheur, enfin là où il était heureux. Il s'aperçoit qu'on ne l'amène pas, il en est affreusement déçu. Son frère Rodrigo, qui a été militaire comme lui, dans la même compagnie, qui a été avec lui pendant 3 ans, captif à Alger, meurt. Ses sœurs meurent, son père meurt. Il revient petit à petit à sa femme, il se fait bigot, il fréquente les milieux littéraires, et Quichotte sort, et c'est immédiatement un succès qui ne lui rapporte aucun argent, mais qui est un succès pour lui, au fond, extraordinaire, parce que d'un seul coup son héros court partout, les éditions se succèdent
international.
Et qui lui vaut immédiatement une flambée de haine extraordinaire, et y compris d'un homme, enfin d'un génie comme Lope de Vega, qui lui écrit un des sonnets les plus cruels qui soit, en le traitant ouvertement de juif, en le traitant de marchand de safran et d'épices, ce qui était en Espagne à l'époque le désigner du doigt vraiment l'Inquisition. Et je crois que l'un des prix à la fois de l'œuvre et du style, c'est ce mélange d'humanisme profond et puis d'observation et d'alacrité dans le ton sur les expériences vécues. Et il mourra donc à Madrid et il finit sur « Adieu joli mot, adieu bonheur, adieu ami ». Et c'est au fond une espèce encore une fois de sourire très désenchanté. Il sait qu'il va mourir et que c'est une question de jours pour lui. Et il rentre très sereinement dans une mort mais complètement désenchanté. Je crois qu'au fond, son destin est exemplaire d'une certaine impossibilité de vivre heureux en terre d'Espagne sous certains régimes. Ce portail-là a dû être ajouté, c'est un portail baroque du XVIIe, et ça a dû être ajouté au moment de la construction de l'église, où on a grandi l'église, sur une façade en fait toute nue de briques, patinées. Et ça, ça a été le goût, on appelle ça en Espagne le retour des Indes. C'est-à-dire c'est la richesse des colonies qui a permis de faire évidemment des grandes façades.
La numéro 18, une grande pièce ouverte. Ça, on a l'air d'entrer dans une habitation.
Normalement le portier est prêt.
Ah voilà, le portier est prêt. Les murs à la chaux. Vert, très vert, un peu comme ce vert qu'on retrouve en Afrique du Nord aussi, Tunisie notamment.
Oui, parce que on cherche toujours évidemment dans les pays chauds ces couleurs froides qui sont, paraît-il, plus reposantes.
Éventuellement, on va quand même cogner. Peut-être ici.
Ah, buenos días, señor. Mire, había llamado ayer para ver la tumba de Cervantes y me habían dicho que es usted el portero del convento. Y me dijeron las religiosas que, bueno, que se podía visitar y que me dijeran a usted.
Sí, creo que sí, vamos a verlo.
Vamos, de acuerdo. Vamos a intentarlo.
Voilà, il a donné un premier élément de réponse.
Oui, une réponse comme ça très espagnole. Il pense que oui, il va voir, il va demander, parce qu'on ne voit la pierre tombale qu'en dehors des heures des offices, puisque c'est un couvent de trinitaires des chaussées, c'est-à-dire qu'elles sont pratiquement cloîtrées. Et donc, qu'est-ce que estamos haciendo una peregrinación para la radio francesa de Cervantes? Dicen que hay la piedra tumbada aquí, que el cuerpo no está aquí, me dijeron las religiosas.
Sí.
Bueno, ellas no están seguras, dicen.
Sí, no, fijo, está aquí, fijo.
Ah, muy bien. Él piensa que sí, que el corps est là, que c'est sûr.
Ah bon.
Le portier, la fille.
Pero en un momento que tiene otra llave por dentro y hay que quitarla.
Vous voyez, ça c'est tout à fait les...
Le port de la sacristie,
oui, tout à fait les couvents cloîtrés espagnols, c'est-à-dire ça se referme de plus en plus, vous voyez que ça s'assombrit de plus en plus, et ça fait la chapelle forme tout le monde, toujours un monde à part.
Diga. Creo que hay un paso, se caigan.
Ça, vous voyez, ça c'est l'hôtel type toujours de ce qu'on appelait en Espagne le retour des Indes, c'est-à-dire les hôtels baroques construits avec l'argent des colonies. Et vous voyez souvent des angelots, des têtes d'angelots. Ici, ils sont blancs, mais dans certains des maîtres hôtels, il y en a aussi des noirs.
Qui du bois sculpté
et
peint.
Et oui, et avant, c'était doré. Quand les églises sont très riches, c'était carrément doré. À de grosses épaisseurs, c'est toujours comme ça, très délirant, ces espèces de lianes, de grappes de raisin entremêlées qui montent le long de colonnes torsadées, abondance de statues évidemment, enfin tout à fait l'hôtel baroque. Oui, alors, vous voyez à la gauche de l'hôtel, de cet hôtel donc baroque, tous deux.
Plein. Le lien en espagnol.
Oui, il y a donc une plaque de marbre au-dessus d'une grille avec une petite fenêtre où serait donc la tombe de Cervantes et on lit En este monasterio yacen Miguel de Cervantes Saavedra, Doña Catalina de Salazar, su esposa, y Sor Marcela de San Félix, hija de Lope de Vega. En ce monastère repose Michel de Cervantes Saavedra, Doña Catalina de Salazar, son épouse, et Sor Marcel de San Félix, fille de Lope de Vega. C'est assez étonnant alors que
ouais.
Qui a été son ennemi intime et la fille de Lope de Vega reposerait là.
Peut-être derrière la grille, peut-être une sœur d'ailleurs.
Et peut-être une sœur, voilà.
Qu'on ne voit pas bien sûr.
Combien de fois. Et juste à la gauche de l'hôtel. Ce qui est troublant, c'est pour ça que ça fait dire qu'il y a peu de chances pour que réellement Cervantes repose réellement ici, qu'il y a plus de chances qu'il soit la fosse commune, c'est que le couvent a été construit 10 ans après sa mort, en 1631. Et le nom de la fondatrice et sa tombe est là, dans le mur, avec une pierre de marbre noir, sur lequel est donnée donc la date de la construction du monastère 1631.
Or, il y a 15 ans après sa mort.
Après sa mort, donc il y a peu de chances qu'on ait transporté le corps. On a dû transporter des restes présumés de Cervantes, présumés de sa femme, sans qu'on en ait une certitude absolue.
Est-ce qu'on sait, Michel Castillo, les sentiments de Cervantes quelques jours avant sa mort?
On le sait surtout par le texte qu'il a écrit, la préface de Persil et ses Sérissements, qui est la dernière œuvre qu'il ait écrite. Donc, et il a arrêté d'écrire cette préface 4 jours avant sa mort, et il prend ouvertement congé de la vie. Et donc on sait à peu près dans quel sentiment il est mort. C'est donc il feint, parce que c'est le procédé rhétorique habituel à Cervantes, il feint de rencontrer un étudiant qui lui dit « Mais vous êtes atteint d'hydropisie, buvez donc moins, mangez un peu plus et vivez plus sainement et vous vivrez longtemps. » Et il répond « C'est ce qu'on m'a dit souvent, mais je ne peux m'empêcher de boire tout mon sou, comme si je n'étais né que pour cela. Ma vie tire à sa fin, et du train où va mon pouls se terminera ma carrière, ce dimanche au plus tard. Votre grâce m'aura connu un mauvais moment, puisqu'il ne me reste plus le temps de me montrer reconnaissant de l'affection qu'elle m'a témoignée. Mais les temps ne sont pas toujours les mêmes. Il en viendra un peut-être où, renouant le fil rompu, je dirai ce que je ne dis pas ici, et que je le sais bien, il conviendrait de dire. Adieu, bon mot. Adieu, facétie. Adieu, joyeux ami. Moi, je m'en vais vers la mort, en souhaitant de bientôt vous revoir content dans l'autre vie. » Et je trouve que c'est tout à fait lui, à la fois cette espèce d'épicurisme, d'amour de la vie, du bon vin, du jeu, et puis cette espèce de sourire indulgent, dire adieu bon mot, adieu facétie, et puis voilà. Et ça, c'est 4 jours avant sa mort. Et ce que je trouve, par contre, aussi très symbolique de l'Espagne, dont on parle sans arrêt à propos de Cervantes, c'est la récupération par l'Église qu'il soit enterré dans un couvent. Lui, dans le moins qu'on puisse dire, c'est que cet adieu à la vie ne résonne pas comme un adieu extraordinairement religieux. Ce n'est pas l'adieu d'un bigot.
Thank you.
Nanome une ville, Miguel de Cervantes avec Michel Del Castillo. C'était la première de deux émissions préparées par Thierry Garcin et Eliane Millot.
Cette émission est la première d'une série de deux. Elle a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 24 août 1978. À suivre.